continuer donc avec vous cette étude de la première épître de Pierre. Et c'est pour ça que je vous propose de lire un texte dans l'épître aux Éphésiens. Pour introduire. Éphésiens 1 au chapitre 1, au verset, au chapitre 1, verset 16, l'apôtre Paul nous dit : Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Nous avons tous besoin de cet esprit de sagesse et de révélation. Je peux dire tous les mots que je veux pour transmettre la parole de Dieu, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui les prend et qui illumine nos cœurs et qui révèle les choses à nos cœurs, parce qu'il n'y a que lui qui puisse nous faire comprendre les choses de Dieu, alors tous mes mots ne serviront à rien. Et c'est pour ça qu'il est très important de nous remettre à Dieu dans la prière, comme notre frère a proposé à Renaud de le faire, parce qu'il faut que le Saint-Esprit nous illumine et nous révèle des choses. On peut les avoir dans la tête, mais la vraie connaissance de Dieu, elle est au fond de notre esprit, et c'est dans la révélation du Saint-Esprit. Et je crois qu'il peut le faire pour chacun d'entre nous, si nous laissons le Saint-Esprit nous toucher. Et donc, c'est surtout sur le Saint-Esprit qu'il faut que vous comptiez et que nous comptions. Nous pouvons donc continuer cette épître de Pierre. Comme j'avais dit, on essaye de le faire une fois par mois, mais le mois dernier, la météo était contre nous. Nous étions très très peu et j'ai donc partagé un texte sur les prières de Jésus. Donc nous sommes toujours à la deuxième partie. J'avais proposé un plan, j'en ai pas pris en plus là, mais je pense que pour ceux qui l'avaient, vous l'avez encore dans vos Bibles. Et vous vous souvenez que cette épître a été écrite donc par Pierre, qui, arrivé à la fin de sa vie, écrit vraiment comme un chrétien expérimenté. Expérimenté dans la relation avec son Dieu. Et on va encore le voir aujourd'hui. Un chrétien qui fait part de son expérience et qui donc veut nous amener à vivre dans la même proximité que lui avec son Dieu. Vous vous souvenez que le plan... On peut peut-être éteindre ces lumières là, si c'est possible. Le plan de cette épître est un plan un peu, enfin, en tout cas, qui n'est pas cartésien. C'est pas petit A, petit B, petit C, mais c'est un plan qui est un peu en forme de symétrie, avec ce qui est le plus important, qui est au milieu. On a vu le point A et le point B la dernière fois. Et puis là, donc, on va voir le point C, les six impératifs de la vie chrétienne. Puis après, il y aura le point C', qui est une symétrique du point C, la vie chrétienne dans un monde hostile, et puis B' et A', que nous verrons donc plus tard. Nous allons donc examiner aujourd'hui six impératifs de la vie chrétienne. Pierre a sélectionné six impératifs qui, je pense, étaient pour lui les plus importants pour tenir bon dans la vie chrétienne. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Pierre parle de la vie chrétienne comme si c'était une marche. Nous sommes toujours en train de marcher, mais on ne marche pas en train de tourner en rond comme les Hébreux dans le désert, mais on marche vers un but quand nous serons bientôt avec le Seigneur. Nous sommes en marche vers le salut qui est prêt à être révélé. On avait vu les trois formes de salut la dernière fois. Nous sommes en marche. Dieu nous a préparé un salut total bientôt quand nous serons dans le ciel. On l'a évoqué ce matin. Mais entre-temps, il faut bien, comme on l'avait lu la dernière fois au verset 6 du chapitre 1, vous réjouissez pour l'instant, mais maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, vous êtes affligés par diverses épreuves. On est dans ce temps-là et on est en marche avec parfois des difficultés dans la vie. mais avec la certitude que Dieu nous a préparé un plein salut, où alors là, on sera vraiment dans le repos total, où on sera avec Jésus pour toujours. Donc c'est en attendant que Pierre va nous encourager et nous proposer les 6 impératifs que je me propose d'examiner avec vous, avec donc l'aide du Saint-Esprit. On va donc lire ce texte à partir du verset 13 du chapitre 1. C'est pourquoi, donc je lis le texte, « Affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. » Vous voyez, Pierre avait toujours ça en tête, la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saint car je suis saint ». Et si vous invoquez comme père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est pas avec des choses périssables, de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine conduite de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres, ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante, la permanente parole de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetez toute méchanceté, toute fraude, l'hypocrisie, l'envie, la médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous grandissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On pourra s'arrêter là. Voilà, commençons donc d'examiner les 6 impératifs que Pierre a sélectionnés, certainement donc les plus importants, pour tenir bon, en attendant d'être pour toujours avec le Seigneur, pour tenir bon, même au milieu des difficultés de la vie. Et le premier impératif, vous n'en serez pas étonné, c'est espérer. Au verset 13, alors dans la version que j'ai lue, il y en a plusieurs impératifs. Affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance ou espérez parfaitement en la grâce qui vous sera apportée lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs impératifs, mais dans le grec, la construction, il n'y en a qu'un, c'est espérer. Les autres, on pourrait traduire, c'est pourquoi affermissant votre pensée et en étant sobre, espérez. Ce sont les participes présents. Mais c'est vrai que la traduction est meilleure comme je l'ai lu, mais c'est pour ça qu'on a sélectionné là un seul impératif, c'est espérer. C'est ça le cœur du verset. Ce qui est étonnant, c'est que Pierre nous dit « Ayez une parfaite espérance » ou « Espérez parfaitement ». C'est-à-dire pas de manière biaisée, pas à moitié, non, espérer parfaitement. C'est comme cette assurance que le vieux chrétien qui est Pierre veut nous dire, vous pouvez avoir une parfaite confiance dans les promesses du Christ et dans le Christ lui-même. Croyez de manière parfaite, de manière complète. Faites le mot grec, là, c'est vraiment l'idée que c'est quelque chose qui est parfait, où il n'y a aucun défaut dans cette espérance. On peut croire de manière parfaite dans toutes les promesses du Christ. Ne doutez pas. Alors, si Pierre nous dit ça, et si Dieu nous le dit aussi, comment, en fait, on pourrait espérer imparfaitement ? C'est ça qui est intéressant, de voir qu'est-ce que ça veut dire, le contraire. Et je pense qu'il y a deux choses intéressantes que nous dit Pierre. Et la première, c'est que on pourrait justement oublier de maîtriser nos pensées. C'est là aussi, c'est intéressant, et j'aime beaucoup revenir à l'étymologie et donc à la traduction grecque des versets, pour découvrir le fond de la pensée de l'apôtre, qui est parfois dans la traduction, et c'est normal, un peu masqué, parce qu'un mot ne peut pas forcément traduire exactement ce qui est dit, ou alors les mots sont un peu vieux. Mais quand il est dit « affermissez votre pensée », en fait, dans le grec, c'est une image qui est prise. Pierre est dit « saignez », du verbe « ceindre », les reins de votre intelligence. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la traduction qui est ici. Mais parce que maintenant, ceindre les reins, vous allez voir votre voisin, par exemple, à qui vous avez parlé une fois de Jésus, puis vous lui dites, tu sais, maintenant il faut ceindre les reins de ton intelligence. Il va vous regarder avec de grands yeux, et il va vous dire, celui-là, il aura juste cité un verset de la Bible, mais il est clair que l'Évangile devant être transmis aux autres, il faut l'expliquer. Et la bonne façon, c'est affermissez votre pensée. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une image d'autrefois où on se promenait avec des longues robes, et quand on voulait courir, quand on voulait vraiment faire quelque chose, ou alors travailler à construire un mur, je ne sais quoi, qu'on avait besoin vraiment de ramasser son énergie, j'allais dire, pour pouvoir, par exemple, courir, eh bien, on remontait sa robe, on prenait sa ceinture, on faisait un tour, on serrait la ceinture, et on pouvait courir, parce qu'on n'était plus embarrassé par la robe dans les jambes. Et c'est ça que Pierre utilise comme image. Mais pas pour courir, au niveau physique, mais dans nos pensées. C'est pour ça qu'il est dit « affermissez votre pensée ». Ça veut dire que vous devez maîtriser toutes les pensées qui se passent dans votre tête. Parce que avant de poser un acte, je pense d'abord. Si je décide de poser un acte mauvais, en général, je le pense et après, je fais l'acte. Si je décide, au contraire, de poser un acte agréable à quelqu'un, je le pense, mais très rapidement, et puis ensuite, c'est parce que je pense que mon cerveau m'envoie ce qu'il faut pour que je bouge ma main, que j'embrasse, que je dise un mot, etc. Donc tout part d'abord de nos pensées. Et dans la Bible, on le trouve dans plusieurs endroits, le chrétien est appelé à maîtriser ses pensées. Et j'y insiste parce que je crois vraiment que pour les chrétiens, souvent, ils se traînent sur la terre parce qu'ils veulent maîtriser leurs mains, leurs sentiments, qui sont trop mauvais, ou etc., mais sans maîtriser leurs pensées. Ils laissent leurs pensées être souvent maîtresses d'eux-mêmes. Et là, nous devons maîtriser nos pensées. Ne pas laisser des pensées impures, par exemple, venir et nous salir ensuite. Ne pas laisser des pensées négatives nous salir ou nous écraser, nous tirer vers le bas, et après je dis ben oui, je suis déprimé. Ben oui, mais c'est la pensée, il ne fallait pas la laisser venir. Oui, la pensée, elle vient à un moment, mais on peut lui dire non. On n'est pas comme ce qui est très souvent dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de passer sur sa tête. L'oiseau, on ne peut pas l'empêcher. Comme une pensée, on ne peut pas l'empêcher de venir. Par contre, on peut l'empêcher d'y faire son nid à l'oiseau. On n'est pas obligé de nourrir la pensée pour qu'elle vienne nous écraser intérieurement, pour parler des pensées négatives. Le chrétien, et ça c'est toute l'épître de Pierre, on l'a déjà vu, doit être un chrétien qui pose des actes, qui est actif dans sa vie intérieure. La vie chrétienne, c'est pas une vie où on se laisse aller et surtout pas une vie où on se laisse mener par ses pensées. C'est nous qui devons, par la puissance de l'Esprit, maîtriser nos pensées. Et ça, c'est une clé pour espérer parfaitement. Parce que quand on commence à se dire, par exemple, « Oui, je sais bien, il est dit que Jésus va revenir. » Et même un grand apôtre, Pierre, il nous dit que c'est sûr. Mais quand même, quand je vois ce qui se passe en moi, que c'est pas si facile de vivre, et qu'il y a des gens qui ne croient pas, etc. Et puis qu'on cultive ses pensées, eh bien tout de suite on dit, « Mais en fait, est-ce que ça vaut le coup d'espérer la venue de Jésus-Christ ?» Mais oui, ne te laisse pas avoir par tes pensées, ni par ceux qui pensent le contraire. Fais confiance à Jésus-Christ, qui dans la parole a dit « Je reviens bientôt ». Vous voyez, c'est un exemple où on doit dire à ses pensées « Je vous maîtrise, c'est pas vous qui allez me maîtriser ». Donc le premier point pour affermir, pour espérer parfaitement, c'est tenir ses pensées, avoir le dessus sur ses pensées, les maîtriser. Comme si on se relevait la robe, serrait la ceinture pour pouvoir courir, ça ne nous gêne plus. C'est très important au niveau du cœur de votre vie. Je n'ai pas le temps d'approfondir davantage, mais voilà, si quelqu'un veut le faire, je veux bien répondre à des questions, mais c'est, je crois, une des clés de la vie chrétienne en bonne santé. La deuxième, c'est soyez sobre. C'est au niveau des actes. Je choisis de maîtriser mes actes. Ça aussi, c'est une question de choix. Je décide de ne pas poser des actes qui vont contre la santé de ma vie chrétienne. Et c'est forcément donc des actes de péché, visibles ou pas visibles. Mais si je veux vraiment avoir cette espérance qui bouillonne toujours en moi, alors je dois choisir, par la puissance du Saint-Esprit, de ne pas pécher. Et j'en suis capable parce que j'ai l'Esprit en moi. Donc c'est souvent le manque de maîtrise de nos pensées, de nos actes, qui nous fait perdre l'espérance. Et quand un chrétien perd l'espérance, alors il perd la joie de vivre avec le Christ. Parce que, comme dit Paul, si c'est juste pour maintenant qu'il faut vivre avec le Christ, ma foi est vaine. Paul, il ne va pas par quatre chemins. Il dit, ça ne vaut pas le coup de vivre pour le Christ juste pour maintenant. Si c'est une vie de discipline, etc., choisissez autre chose. Mais si vous avez vraiment l'espérance de voir Jésus qui va revenir, alors là, ça vaut le coup de vivre la vie chrétienne maintenant sur la terre. Un deuxième impératif. Soyez saints. C'est donc les versets 14 à 16. Où il nous est dit, verset 15, « De même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans votre conduite. » Donc c'est ce qu'on appelle la sanctification, c'est-à-dire l'application que je mets tous les jours à faire que je sois propre, c'est-à-dire sans péché, que je puisse vraiment vivre devant mon Dieu. Là aussi, c'est une question de choix. Tout comme je décide le matin d'aller faire ma toilette, eh bien, tous les matins, je décide aussi de faire ma toilette intérieure. Et de décider, de progresser. Et voilà, c'est un processus. Et le Seigneur, parfois, et même, je peux vous dire toujours, j'ai le grand âge de 50 ans, vous vous rendez compte, hein, mais il y a des gens, des frères et sœurs ici, qui ont beaucoup plus de vie de chrétienne que moi, et qui pourront dire certainement que même maintenant, le Seigneur les amène à, je regarde Henri et Michel, que même maintenant, les Seigneurs les amènent à sanctifier. Parce que il y a plein de choses qu'on ne voit pas, et parce que le Seigneur nous montre pas tout de suite. Et puis au fur et à mesure qu'on se nettoie, le Seigneur nous montre d'autres choses où je dois progresser pour lui ressembler davantage. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans la vie chrétienne, parce que le Seigneur n'a jamais fini avec nous. Donc on ne peut pas se lever un matin en se disant, ça y est, j'ai fini, en fait, j'ai plus rien à faire, je vais m'ennuyer dans cette vie. Non, avec le Christ, on ne s'ennuie jamais. Et en plus, il a souvent des choses à nous faire faire. Donc, de choisir de progresser dans la sainteté, c'est ce que Pierre nous invite à faire. Et il nous dit comment ? Il nous dit, autrefois, vous laissiez aller par vos propres désirs. Vous n'aviez pas la puissance de dire non au péché. Ça, c'est tout l'enseignement de Romains 5, 6, 7, 8. Que le péché, en nous, était notre maître. C'est, voilà ce qu'il dit, Pierre, c'est une autre façon de dire que Paul, et c'est très bien, c'est complémentaire. Vous ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Quand vous ne connaissiez pas le Christ, le péché était votre maître. Mais maintenant, le Saint-Esprit est venu en vous. Et il a dit, maintenant tu n'es plus l'esclave du péché, tu es l'esclave de Jésus. Donc le péché n'est plus mon maître, je peux lui dire non. C'est la grande différence entre un chrétien et un non-chrétien. C'est tout l'enseignement de Paul qui est très riche et libérateur. Et c'est ce que Pierre dit. Autrefois, quand le péché était votre maître, vous suiviez vos désirs. Mais maintenant, c'est différent. Donc vous pouvez choisir de progresser dans la sainteté, puisque le péché ne peut pas vous obliger à faire des choses. Vous avez toujours le péché en vous. Mais la grande différence, vous pouvez lui dire non. Vous êtes plus fort que le péché. Le Saint-Esprit vous a donné cette puissance. Je peux dire non au péché. Et donc je peux progressivement me libérer de tous les péchés. Des fois, c'est au début de la vie chrétienne, ça peut être des gros péchés, bien visibles aux yeux de tout le monde. Puis au fur et à mesure de la vie chrétienne, c'est parfois des détails que le Seigneur nous montre et qui nous fait nous humilier devant lui en disant « C'est vrai Seigneur, ça j'avais, bah, tu ne m'avais pas encore montré, mais aujourd'hui tu me montres et je veux décider d'être encore plus propre devant toi. » Devenez saint dans toute votre conduite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, Pierre fait appel à notre volonté. On avait déjà parlé de l'obéissance la dernière fois, c'était le verset 2. On avait été sauvés pour obéir. Ce n'est pas un choix dans la vie chrétienne, nous devons obéir. Enfin, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, mais c'est à nous de répondre. Eh bien, Pierre, là aussi, a une manière de nous mettre en responsabilité en disant « comme des enfants obéissants ». Est-ce que je choisis d'obéir aux consignes que Dieu me donne pour vivre une vie chrétienne heureuse ? C'est un vrai choix. On ne peut pas, en tant que parent, je ne peux pas obliger, enfin, rendre le cœur de mon enfant obéissant. Je peux l'obliger quand il commence à désobéir, ou je pouvais, maintenant il devient un peu grand, mais... C'est un choix personnel, l'obéissance. Et quand l'enfant des parents ou l'enfant de Dieu a compris que obéir, c'est la clé du bonheur, alors on décide justement de ne pas se laisser avoir par les désirs que j'avais autrefois, mais à dire non au péché et oui à ce que Dieu me dit. Donc, devenez saint par obéissance, parce que je sais que c'est ça la clé de mon bonheur. La vie chrétienne est une vie forte, une vie qui demande une implication personnelle. Et ça, quand on le découvre petit à petit, on devient de plus en plus fort, et devenant de plus en plus fort, on vit de plus en plus la vie du Christ et le bonheur de vivre avec le Christ. Avec, comme dit Pierre, aussi parce qu'il le faut, des moments plus difficiles que d'autres. Mais où on a de plus en plus la foi que Dieu va nous sortir d'affaire. Devenez saint dans toute votre conduite. Le troisième impératif, c'est à partir du verset 17. Si vous invoquez comme père celui qui juge selon les œuvres de chacun, conduisez-vous avec crainte. Alors là, c'est une question de ma relation avec Dieu. Avant d'être saint, c'était ma toilette personnelle. Là, c'est ma relation avec Dieu. Quelle relation développez-vous avec votre Dieu ? Eh bien, Pierre nous invite à développer une relation faite de révérence. C'est pour ça que j'ai, vous voyez, être révérencieux. Donc, c'est une autre façon de traduire crainte. La crainte n'est pas du tout là l'idée d'avoir peur de Dieu. Mais c'est de le respecter profondément parce qu'il est tellement plus grand. Et moi, j'ai beaucoup aimé le temps de louange ce matin où on a vu Jésus. On peut pas ne pas le craindre quand on entend Colossiens, le chapitre de Colossiens qu'on a entendu, ou le psaume 2. Je veux dire, c'est voilà. Mais soyons toujours dans cette attitude de révérence vis-à-vis de notre Seigneur. Mais c'est une crainte, on le comprend bien, qui n'est pas une crainte de peur. Au contraire, c'est un respect d'amour parce qu'il est tellement plus grand que nous. Il nous a tellement donné. Et justement, pourquoi Pierre nous dit « Ayez vraiment cette crainte respectueuse devant Jésus ?» Eh bien, c'est... il n'y a qu'à lire. Vous savez, en effet, que Dieu, il n'a pas pris de l'or ou de l'argent pour nous sortir de l'affaire. Regardez le prix que Dieu a payé. Le sang précieux de Jésus-Christ. Est-ce que je peux, devant ce Dieu qui a donné son Fils lui-même, et dont le Fils a donné sa propre vie, il a souffert pour nous, est-ce que je peux me tenir devant mon Dieu en disant que je suis son égal, et que je peux faire ce que je veux dans ma vie, que je peux choisir de pécher, que ça n'aura pas d'importance, de toute façon, c'est un bon Dieu, il va me pardonner? Non, ça, c'est pas la crainte respectueuse. Et l'attitude intérieure que j'ai devant mon Dieu va me faire que je serai fort dans ma vie chrétienne de tous les jours. Parce que j'aurai la juste attitude devant ce Dieu qui a tout donné pour moi. Dieu a mis les gros moyens. Regardez aussi au verset 21, la deuxième partie du verset 21. Il a fait que notre foi et notre espérance, elles soient en Dieu, à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Donc c'est pas, d'ailleurs Pierre le dit après, j'ai pas inventé des histoires habilement imaginées. Moi je l'ai vu Jésus-Christ glorieux sur la montagne. C'est de ça que je vous parle. C'est pas rien. Notre espérance et notre foi, elles sont en Dieu. Je peux vous l'assurer, dit Pierre. Alors, ce Dieu-là, craignez-le. Respectez-le. Et quand on a cette attitude de respect au fond de soi, alors on entend beaucoup plus la voix de Dieu. Alors on ressent beaucoup plus ce que Dieu ressent. Et son esprit peut nous parler beaucoup plus. Il n'y a rien de tel que l'orgueil pour empêcher l'esprit de nous parler au fond de nous et de nous encourager au fond de nous. Donc ayons cette crainte respectueuse. Une petite parenthèse sur laquelle je tiens à insister parce qu'il y a souvent une mauvaise compréhension de ça. Au verset 18, donc il y a quelque part, je n'ose pas dire ça parce que c'est écrit dans ce passage, mais quelque part rien à voir avec la crainte respectueuse. Mais vous voyez au verset 18, la deuxième partie, « Vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, héritée de vos pères, par le sang précieux de Christ. » Notre vaine manière de vivre, c'est-à-dire notre vie qu'on avait avant de connaître le Christ, qui ne valait rien et qui s'éloignait toujours plus de Jésus. On a été racheté alors qu'on l'avait hérité de nos pères. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est une maladie qui se passe, que j'ai reçue par ma mère, qui l'avait reçue de sa mère, etc. On hérite notre vaine manière de vivre de nos parents. C'est pas de notre faute. Et c'est important parce que parfois des personnes se culpabilisent elles-mêmes d'avoir été pécheurs. Mais non, on est né avec cette maladie. Et Dieu ne nous reprochera jamais d'être pécheurs. Je dis ça parce que à cause de cette culpabilité qui parfois alourdit des personnes, la vie chrétienne, certaines personnes, et qui disent, je connaissais un frère qui ne cessait de remercier Dieu, mais de dire en même temps à Dieu, je suis qu'un pauvre pécheur. Et ce pauvre frère, il n'a jamais décollé spirituellement. Mais oui, tu étais un pauvre pécheur, mais ce n'est pas de ta faute, c'est de la faute de ta mère. Et qui elle-même, c'était de la faute de sa propre mère. Par contre, si Dieu ne nous reprochera jamais d'être pécheur, il nous reprochera éventuellement de ne pas saisir le moyen d'être débarrassé de cette vie-là. Alors ça oui, là on est responsable, on n'est pas responsable d'être pécheur, on est responsable de ne pas saisir le salut que Dieu nous donne. Si on ne saisit pas le don de vie qui vient justement nous rendre, nous purifier de nos péchés et nous rendre plus forts que le péché, alors là, Dieu un jour nous dira, tu n'as pas accepté, et on fera partie de ceux dont on a parlé ce matin, qui se mettront de force à genoux devant Jésus. Ça, Dieu nous le reprochera. Dieu est un Dieu qui veut nous libérer, un Dieu qui ne nous condamne pas d'être pécheurs, il va peut-être nous condamner de ne pas avoir saisi le moyen de nous sortir de cette situation. Alors, accrochons-nous à ce Dieu libérateur. Et révérons-le toujours avec respect. passer au quatrième impératif. Aimez-vous les uns les autres. Alors là, on passe à... Vous voyez que Pierre a choisi plusieurs domaines de la vie chrétienne. Il a choisi d'abord l'espérance, l'avenir. Ensuite, il a choisi quel soin vous prenez de vous-même. Soyez saints, sanctifiez-vous de plus en plus. Ensuite, il a dit mais votre relation avec Dieu, comment elle est? Vérifiez-la. Et puis maintenant, il va nous dire votre relation avec les autres, comment ça se passe? Aimez-vous les uns les autres. Si nous nous aimons avec l'amour, juste l'amour humain, notre amour va ressembler à une plante qui un jour grandit et le lendemain se fane. La fleur tombe, l'herbe sèche. C'est ce que Pierre nous dit là. Aimez-vous les uns les autres. On a choisi au verset 22 d'obéir à la vérité, encore une fois le mot obéir. Vous voyez que c'est très fort chez Pierre. On a choisi d'obéir à la vérité. C'est un choix que nous avons fait. C'est du passé. Pour avoir un amour fraternel sincère, pour vivre avec nos frères et sœurs chrétiens cet amour fraternel, mais aussi pour montrer l'amour aux autres. Mais ce que Pierre nous dit, aimez-vous les uns les autres ardemment de tout cœur, parce que vous avez reçu en vous une graine d'une puissance extraordinaire. Et c'est pour ça que Pierre fait cette comparaison avec la plante. Si vous n'avez que l'amour humain que vous aviez même avant d'être converti, cet amour, il est vite fané. Il suffit que l'autre en face vous déçoive, alors vous avez beaucoup de mal à l'aimer. Mais la graine, pour prendre l'exemple de la semence, hein, c'est le mot qui est employé, la semence ou la graine que Dieu a mis en vous quand vous êtes tourné vers le Christ, alors cette graine-là, elle a une puissance de vie extraordinaire. Et donc l'amour qui est contenu dans cette graine-là, il dure éternellement. Et c'est pour ça que Pierre dit, la parole du Seigneur, hein, nous avons été engendrés par la parole du Seigneur, s'il est dit autre part, eh bien elle demeure éternellement. Et ce n'est donc qu'avec la force de cette vie que le Christ a implanté en nous, que nous pourrons réellement aimer. Et c'est un vrai enjeu ça. Parce que c'est à l'amour qu'on a entre nous que les autres verront qu'on est les disciples de Jésus. Et donc, vous savez certainement aussi bien que moi que dans une église, il y a des jours où on s'aime bien, puis il y a des jours où il y a des frères et sœurs qu'on aime moins. Parce qu'il y a aussi des moments difficiles dans les églises, parce qu'il y a aussi des frères et sœurs qui n'ont pas forcément un caractère, qui ont beaucoup d'atomes crochus avec le mien, etc. Et si on ne dépasse pas l'amour humain, ça peut vite, et malheureusement il y a eu des exemples dans les églises du monde entier depuis les siècles passés, des moments où dans les églises ça ne marche pas bien. Mais si on dépasse l'amour humain en laissant la vie de Dieu, vraiment celle qui a été implantée en nous, poussée, et elle demeure éternellement, alors les fruits de l'amour de Dieu, viendront. Et ils dépassent l'amour humain. Et c'est ça le vrai enjeu. Et c'est ça que Pierre a visé comme quatrième élément dont il faut faire attention dans la vie chrétienne. Aimez-vous en utilisant la graine de vie que Dieu a mis en vous, de l'amour de Dieu. On va passer au cinquième impératif. Alors là, c'est un impératif quotidien, un peu comme la sanctification. C'est buvez la parole de Dieu. On le dit souvent, et on le dit jamais assez peut-être, sauf que peut-être... On le dit parfois comme une forme de loi. Lis ta Bible, prie chaque jour. Alors on le fait. J'espère qu'avec Pierre, entre autres, nous allons découvrir une manière de lire la Bible qui n'est pas justement quelque chose qu'on nous impose, mais quelque chose dont j'ai envie. Quelle est la bonne boisson ? Pierre nous parle du lait. Alors il faut faire attention parce que dans les Hébreux, il est aussi parlé du lait, mais pas de la même façon. Dans les Hébreux, l'écrivain, il critique un peu les Hébreux parce qu'ils ne sont qu'à boire du lait. C'est-à-dire que, alors que vous devriez être des adultes, vous êtes encore comme des bébés à boire du lait. Alors ça, c'était l'idée de l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, parce qu'il avait envie de... Enfin, il avait besoin d'une image. Là, c'est pas du tout la même chose, et je le dis parce que faut pas assimiler les deux. Là, au contraire, Pierre, il met le lait en avant comme étant une nourriture, la nourriture la plus complète qui soit. Dans un seul litre de lait, vous avez tous les éléments nécessaires à un bébé pour grandir. C'est ça l'image, là. C'est plutôt la nourriture complète. Eh bien, Pierre nous dit, nourrissez-vous de ce lait non frelaté. Donc déjà, en ce temps-là, on devait frelater le lait. Parce que vous savez que c'est très surveillé, hein, qu'il y a une tentation de la part des producteurs de lait, donc les paysans autrefois, les laiteries maintenant, de rajouter un peu d'eau, qui coûte un peu moins cher que le lait. Hein, on rajoute un peu d'eau dans le lait, et puis on vend plus de lait, mais en fait c'est pas que du lait, il y a de l'eau dedans. Hein. Et donc le frelater le lait, c'était souvent avec l'eau pour gagner plus d'argent. Mais là, Paul nous dit, dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'eau. C'est tout bon, tout est pur. Et vous pouvez y aller, ce sera un bon aliment. Mais nourrissez-vous, buvez-en, Pierre nous dit. Si je veux grandir dans la vie courante, quelqu'un qui viendrait vous voir en disant « Mais je suis faible, je ne sais pas ce que j'ai, mais je suis faible. » Et vous lui dites « Mais depuis combien de temps tu n'as pas mangé ?»« Oh, depuis 5 jours. » Ah ben oui, voilà, on rigole. Ben oui, c'est évident. Et quelqu'un qui vient vous voir en disant « Je suis faible dans ma vie avec le Seigneur. » Vous lui dites « Mais depuis quand t'as pas lu ta Bible ?»« Ben depuis 5 jours. » Ben là, on trouve ça normal. Pour certains. Ben non. La loi est la même. Je veux dire, la loi de manger des aliments pour grandir dans notre corps et la loi de boire le lait de la parole pour grandir spirituellement, elle est la même. Autrement, je deviens faible. C'est ce que Pierre veut nous dire. Buvez-en comme un bébé boit au biberon quand il a faim. Vous avez tous vu un bébé. Il ne faut pas le faire attendre. Et Pierre nous dit, soyez des bébés dans ce sens-là. Buvez le lait de la parole. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit que pour avoir envie de ça, il y a 5 choses qu'il faut rejeter. C'est le premier verset du chapitre 2. Rejeter la méchanceté. Alors si vous avez en vous quelque chose de méchant contre quelqu'un, vous n'aurez pas envie de boire la parole de Dieu. C'est ça que Pierre veut dire. Donc posons-nous des questions quand j'ai pas envie. C'est peut-être ça que je nourris quelque chose de méchant et donc j'ai pas envie de m'approcher de Dieu par sa parole. Il y a aussi la ruse ou la fraude. J'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que si j'ai de la ruse en moi, ça va m'empêcher de lire la Bible ? Je pense que, en voyant le contraire, c'est intéressant. Est-ce que j'ai un cœur vraiment honnête ? Honnête vis-à-vis des autres ? Est-ce que j'ai été honnête, effectivement, droit ? Ou honnête par rapport à moi ? Est-ce que je m'approche pour lire la Bible en me disant, bon, je vais lire parce qu'on m'a dit de lire, mais je sais qu'il y a des trucs que je n'ai pas envie de faire. Et mais je vais lire, mais oui, Dieu aide-moi. Mais en fait, on sait qu'on n'a pas trop envie, quoi. Je pense que c'est ça aussi l'honnêteté intérieure devant Dieu. Et ça, Dieu le voit. C'est aussi l'honnêteté, je pense, par rapport à la capacité qu'ont certaines personnes, et je peux être de celles-là, de manipuler les autres. Parfois même avec une certaine connaissance biblique, une certaine supériorité spirituelle, je peux manipuler, faire de l'abus spirituel, imposer des choses à des frères et sœurs plus faibles, alors qu'eux n'ont pas cheminé encore avec le Seigneur, imposer des choses comme des lois. Je pense que ça, tout ça, c'est la fraude. C'est des choses qui ne doivent pas. Ou, parce que je suis très sentimental, ou je sais que mon frère est très sentimental, faire vibrer son cœur pour qu'il accepte quelque chose, même dans la vie avec le Seigneur. Non, ça doit être lui qui accepte. Je pense que c'est ça l'honnêteté très profonde qu'on doit avoir et qui peut nous empêcher de vraiment profiter de la parole de Dieu. L'hypocrisie peut être aussi. Voilà, je sais que j'ai lu, je peux vous dire, je peux même réciter toute une épître par cœur, mais en fait, j'en fais rien dans ma vie. Et avec mes propres enfants, ma propre épouse, je fais le contraire de ce que j'ai lu, ou même parfois de ce que j'ai pu dire aux autres, conseiller, voire enseigner. L'hypocrisie, c'est ça. La Bible ne me servira de rien. La jalousie, là aussi, la médisance. Est-ce que j'ai dit, tu sais, ne le dis pas, mais tu sais, parce que surtout, il ne faut pas le dire, donc je te le dis, mais ne le répète pas. Il y a la sœur un tel là, il y a un problème. Hein. Voilà. Et si je commence à lire la Bible après des paroles de médisance, la nourriture n'aura pas son effet. Je pense que c'est important de voir ces cinq éléments que je dois rejeter. Et on peut très concrètement dire avant d'ouvrir la Bible, Seigneur, je te remets toute méchanceté, toute ruse, toute hypocrisie, toute jalousie, toute médisance avant d'ouvrir ce texte. Et s'habituer à dire ça au Seigneur, et pour purifier son cœur et pour que l'aliment soit pleinement utile. Mais j'aimerais insister sur cet impératif, sur le verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. On peut traduire aussi, puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et c'est là que j'aimerais insister, parce que j'aimerais vous encourager à ouvrir la Bible en pensant que le Seigneur va être encore bon pour vous. Et non pas d'ouvrir la Bible parce qu'on vous a dit de la lire. Mais de dire, « Ah Seigneur, tu as déjà été tellement bon quand j'ai ouvert la Bible. Tu m'as vraiment consolé. Tu m'as vraiment encouragé. Tu m'as vraiment montré un chemin. Tu m'as vraiment donné une parole, parce que avec mon prof, ma prof, avec mon voisin, je ne savais pas comment faire, quelle attitude avoir. Et tu m'as vraiment libéré. Tu m'as... Alors cette fois-ci, tu peux encore être bon. » Et s'approcher de la parole de Dieu avec gourmandise, parce que je sais que le Seigneur peut être bon. Alors ça, c'est la bonne attitude, parce que le Saint-Esprit peut agir. J'attends une bénédiction. Bénédiction, c'est de dire quelque chose de bien, de recevoir quelque chose de bien. Puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon, et Dieu veut encore bénir par sa parole. Je vous encourage vraiment donc à vous approcher de ce biberon spirituel en pensant que le Seigneur va être bon pour vous. Et puis je termine avec le sixième impératif, profitez de faire partie du peuple de Dieu. C'est l'idée qu'on a dans le verset 5 du chapitre 2, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Nous avons le privilège d'être une pierre vivante au milieu de plein de pierres vivantes. Et chaque pierre vivante a sa fonction. On avait déjà un peu parlé la dernière fois en prenant l'exemple du corps. Chacun a sa fonction. Et forcément, moi, je n'ai pas toutes les fonctions. Ma sœur qui est ici n'a pas toutes les fonctions. Mais elle est très belle et elle les fait partager à l'église. Et puis un autre aura autre chose. Et c'est aider les uns par les autres qu'on forme le corps de Christ qui a un sens. Et qui a un sens dans son action. Je trouve très beau de me dire, est-ce que je peux essayer de m'approcher de Jésus, approchez-vous de lui, tout en restant seul, à votre avis? Est-ce que vous pouvez vous approcher tout seul du Christ? Ben non, parce que si votre frère il fait la même chose, vous risquez d'être tout proche de votre frère, et de votre sœur, etc., etc. Je pense à ces chrétiens, et il y en a dans tous les départements, qui par déception souvent, ou parce qu'on n'était pas d'accord avec tout 150% de ce qu'ils pensent, ben, ils préfèrent vivre tout seuls. Mais c'est anti la pensée de Dieu. Je veux dire, parce que si moi je m'approche du Christ, si Charlotte s'en approche, si Émilie s'en approche, on sera forcément à quatre, et les uns les autres. Et je trouve cette idée intéressante de se dire, je m'approche de lui, la pierre vivante, et c'est en étant autour de lui que je forme la maison de Dieu. Et je me posais la question ce matin, pour moi-même, est-ce qu'en venant au culte, je viens à l'église ou je viens m'approcher du Christ avec mes autres frères et sœurs? Et ça donne un sens supplémentaire à notre rencontre. Approchez-vous de lui. Et puis, Est-ce que justement je m'approche de l'Église, c'est-à-dire que je suis moi dans l'Église, ou je suis nous dans l'Église ? Est-ce que je viens dans cette Église pour m'asseoir tout seul, même s'il y a des gens autour de moi ? Parce que dans notre société, on peut très bien être entouré de plein de gens et être tout seul, et même dans l'Église. Mais ça dépend aussi de moi, ça. Je peux m'asseoir ici, venir consommer la louange, être heureux, consommer la scène, consommer le message, mais voilà, être consommateur. Mais qu'est-ce que moi j'ai donné à mon frère, à ma sœur que j'ai rencontré ? Est-ce qu'est-ce que j'ai donné aujourd'hui ? Mais le ministère dans l'Église n'est pas forcément que pendant le culte. Est-ce que je donne aussi ? J'ai remarqué que plusieurs personnes se plaignant d'être seules parfois, étaient aussi des personnes qui consommaient et qui ne voyaient pas. Elles avaient aussi besoin d'être aidées pour ça. Comment elles-mêmes donner ? Et alors quand on donne et qu'on reçoit, alors là, la vie se met en marche. Et les relations se mettent en marche. Édifiez-vous. Profitez d'être une pierre dans la maison de Dieu pour vous construire ensemble et pour faire quelque chose de beau qui plaît à Dieu puisque c'est sa maison. Dans la maison de Dieu, je passe rapidement une petite remarque. Il y a deux, ça c'est très important en termes de point de doctrine pour Pierre, deux fonctions de l'Église. Au verset 5, Pierre nous dit qu'on forme une maison spirituelle en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, c'est-à-dire d'offrir les sacrifices avec nos lèvres, souvent avec nos lèvres, puisqu'on prie, on chante. Ça, c'est une fonction de l'Église, adorer Dieu. Et la deuxième fonction de l'Église, c'est le verset 9. Et on en a parlé ce matin et c'était intéressant. On a adoré Jésus, le plus grand, le plus beau, etc. On l'a adoré et on a parlé aussi de lui comme celui de qui on doit parler autour de nous, de qui on doit annoncer le nom. Le témoignage de Renaud et Isabelle était intéressant aussi pour ça. Pourquoi, au verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple qui doit faire quoi ? Annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Une église qui oublierait l'action de parler de Jésus au dehors, à travers les dons d'évangélistes et aussi à travers le témoignage des uns et des autres, alors ce serait une église qui oublierait la deuxième grande mission qui est là. Voilà. Je conclue. Pierre nous dit espérez. Pierre nous dit soyez saints. Pierre nous dit révérez Dieu. Pierre nous dit aimez. Pierre nous dit buvez la parole. Pierre nous dit profitez de l'Église. Vous voyez tous les champs d'action que Pierre a sélectionnés. Et si on suit ça, je pense que si on a confiance dans ce vieil apôtre expérimenté, on devrait faire des progrès dans sa vie spirituelle. Mais je voudrais vous poser une question pour terminer. Quel est le secret pour être vraiment motivé pour ces 6 impératifs ? Quelle est la motivation ? Et ça, c'est ce que je trouve peut-être de plus beau dans ce qu'on a lu aujourd'hui. Et c'est là qu'on voit que Pierre, il connaissait son Dieu. Le secret, c'est mon amour pour le Christ. C'est ça le secret de la vie chrétienne. C'est pas des impératifs de « tu dois, il faut » pour faire plaisir à papa, maman. C'est pas ça. C'est « tu le fais parce que tu aimes le Christ ». Et tu as compris que c'est dans ces six champs-là que tu peux progresser. Parce que tu aimes le Christ, tu vas le faire. Pourquoi je dis ça ? Regardez, pour le premier, espérez, en attendant la révélation de Jésus-Christ. Celui que j'aime va bientôt revenir. Ça m'aide à espérer. J'espère pas dans un au-delà hypothétique, comme les musulmans par exemple, qui peut-être iront au ciel. Non, j'espère, je connais ce Christ qui a fait la promesse. Le deuxième, être saint. Pourquoi être saint ? Parce que moi, je suis saint, alors vous serez saint. Vous serez saint car je suis saint. Je me suis approché de ce Christ, et quand je m'approche de lui, c'est ce qu'on a vécu, ce que j'ai vécu en tout cas ce matin dans le moment de louange, un Dieu tellement grand, tellement saint, mais j'ai pas d'autre choix que de choisir d'être saint. J'ai envie de lui ressembler. Vous voyez, c'est pas par peur, mais j'ai envie de lui ressembler à ce Christ-là, tellement beau. Et il m'a dit de m'approcher. Alors, je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir m'approcher de lui. Ensuite, nous avons parlé de nous conduire avec crainte devant lui. Quelle est la motivation de Pierre par rapport à la crainte de Dieu? Mais c'est tout ce que Jésus a fait pour nous. Quand on voit Jésus qui meurt en croix, alors je dis, t'as payé pour moi. Moi, je veux être saint dans ma conduite à cause de tout ce que tu as fait. Et je veux te craindre, te révérer, te respecter. Il n'y a pas personne qui mérite un plus grand respect que celui qui est mort en croix, par amour pour les autres, alors qu'il n'était pas coupable. Pour ce qui est de s'aimer, j'aime mon frère, ma sœur, parce que j'ai reçu la vie de Jésus-Christ en moi. Ça, c'est un beau cadeau. C'est à cause de mon amour pour Jésus, à cause de la vie qu'il a mis en moi, que je vais aimer l'autre, et grâce à la vie qu'il a mis en moi. Pour lire la parole de Dieu, on l'a vu, c'est parce que le Seigneur, il m'a souvent montré qu'il était bon quand j'ai lu la Bible. Alors c'est par amour, et parce que je veux encore vivre cet amour avec lui, que je vais lire la Bible. Et puis, je vais utiliser l'Église, m'édifier avec mes frères et sœurs, parce que je veux d'abord m'approcher du Christ. C'est lui qui m'attire. Et avec ça, je me retrouve avec mes frères et sœurs, et je vais pouvoir grandir avec eux, les uns par les autres, le Saint-Esprit créant l'unité du corps. Alors vous voyez, la vraie motivation pour Pierre, c'était son amour pour le Christ. Et je demande vraiment pour vous, et pour nous, que ce soit la vraie motivation de notre vie chrétienne. Mon amour pour le Christ qui a tellement donné pour moi. Voilà.